Bonjour et bienvenue dans PronoLive, l'émission consacrée à 100% aux pronostics. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un live un peu spécial, puisque nous sommes en effectif réduit, comme vous pouvez le voir, et j'ai l'honneur de vous présenter Seb qui revient à l'écran. Et je pense que Seb est comblé, puisque son équipe, le PSG, s'est qualifiée cette semaine. Tu vas nous en parler.
Eh
Salut
bah
Seb.
écoute, salut tout le monde, ravi de faire le retour dans l'émission. Ça fait un peu bizarre hein, maintenant de se voir à l'écran quand on est de l'autre côté du rideau. Bah écoute, oui, le PSG, bonne surprise, hein, on en avait parlé un petit peu. Autant sur le match aller, je voyais que tout le monde était un peu trop confiant sur le PSG avec cette équipe du Barça que tout le monde voyait morte. Au final, ils ont réussi un bon coup à l'aller. Et autant sur le retour, je voyais tout le monde qui nous voyait sortis déjà. Et je pensais que c'était possible. Ces deux équipes qui étaient de niveau quand même assez homogène. Un PSG qui a pas de grosse référence cette
Ok.
saison et qui est venu la chercher.
Je crois qu'on t'entend pas très bien, Seb. Justement, c'était un peu le challenge puisque tu es au four et au moulin aujourd'hui. Tu fais et les pronos et la technique.
Ah
Alors, je ne
ouais.
sais pas si vous l'entendez, si certains l'ont entendu.
C'est
J'espère qu'on
Bouli,
va y
Nadim,
arriver.
c'est
C'est bon
bon.
là pour tous les
Allez.
deux. Ok, super. Merci à tous ceux qui nous ont fait le retour en live. Dans le chat, merci à vous, puisque c'est un peu spécial, comme je vous le disais. On a voulu continuer cette émission tous les vendredis, malgré les absences. Donc, les deux seuls rescapés des vacances, c'est Seb et moi. Donc, voilà, on est heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez entendu le programme du jour. Sinon, c'est un programme assez habituel, vu qu'il y avait une coupure de son. Et donc, on va commencer avec le débrief des pronos Coupe d'Europe, notamment les miens, puisque j'étais le seul à en donner et il y avait Raph pour la répartie. Alors, ça s'est pas bien passé de mon côté, du côté du PSG, enfin du Barça, que j'avais conseillé. Et tant mieux, je dirais, puisque le PSG l'a fait. Et justement, Seb, tu nous l'as rappelé, tu nous avais dit hors antenne que tu sentais justement bien tes Parisiens, puisque c'est là qu'on les attendait pas. Et justement, c'est un peu le paradoxe au football. Quand on est trop favori, ben ça se passe mal. Et quand on est un peu outsider, c'est mieux. Alors, j'ai un petit regret quand même. C'est le but de Rafinha, puisque je l'ai combiné avec la victoire du FC Barcelone et qu'en fait, Rafinha tout court, c'était quand même une cote à plus de 3 et c'était déjà assez intéressant. Donc, dommage d'avoir été trop gourmand sur ce pari et tant mieux pour le PSG qui m'a fait déjouer comme souvent. On passe maintenant à l'autre grosse affiche du mardi soir. C'est le Borussia Dortmund donc, qui a battu et éliminé l'Atlético de Madrid. Donc là, j'ai un peu mieux. J'ai oublié de te dire, Seb, en fait, Malen était absent de tout le match. Il aurait fallu le mettre en annulé. Il s'est blessé au genou juste avant la rencontre. Il était annoncé pourtant dans l'effectif. Donc,
Te
Malen est
corrigerai sur
normalement
le bilan.
remboursé. Ouais, pas de souci. Malen est remboursé et le Borussia s'est imposé. À un moment, ils se sont fait rejoindre à deux partout, mais heureusement, ils ont trouvé la faille dans le dernier quart d'heure pour une belle victoire, 4 buts à 2. Donc là, j'ai sauvé les meubles sur cette rencontre. Et après, il y avait donc deux autres affiches du mercredi. Et là, j'ai trouvé la victoire du Bayern de Munich. Donc, petite victoire 1-0. Donc, ça n'a pas suffi pour que Harry Kane puisse marquer en première mi-temps. Mais le Bayern s'est quand même imposé. Donc, petit bénéf sur le match. Et les Gunners ont été sortis par plus fort qu'eux en ce moment. Et enfin, dans l'énorme choc de ces quarts, ce fut la petite surprise quand même, puisqu'on voyait les Citizens quand même faire le boulot à l'Ittihad et le Real Madrid a vraiment tenu le choc et a emmené cette équipe en prolongation et au tir au but pour se qualifier. Donc quand même petite surprise, puisqu'on voyait en tout cas pour ma part City se succéder à lui-même et le Real sera bien présent en demi-finale de la Ligue des Champions comme souvent. Et là, je ne passe aucun des deux pronostics malheureusement. Voilà pour les pronos Ligue des Champions. Et donc, en Europa League, alors j'ai hésité entre la victoire de l'OM et le but d'Aubameyang. Et bien sûr, c'est l'OM qui s'est imposé sans but d'Aubameyang. Hein, une très belle prestation des Marseillais, donc qui sont qualifiés pour les demi de l'Europa League. Et enfin, pour le dernier match, je me suis complètement planté puisque je voyais les Villans punir les Lillois. Alors, les Villans se sont bien qualifiés au tir au but, mais Lille a fait une très très bonne rencontre, aurait dû même se qualifier et au tir au but, ils ont subi la loi d'Emiliano Martinez, un gardien hors norme dans cet exercice-là. Allez, voici pour le débrief. Donc, c'était pas terrible, terrible le bilan. Donc, je sais pas si tu as mis le match annulé ou pas,
Non,
Seb. Donc,
je le
quand même
corrigerai
un
pour
peu
l'affiche.
déficitaire. Donc, moins 3,7 unités. On va essayer de faire mieux dans cette émission, même si ça ne sera pas facile, puisqu'en ce moment, il y a pas mal de surprises, comme vous le savez. Allez, on va enchaîner donc avec le plat principal de l'émission, et donc un pactole d'1 500 000 euros, donc une validation de nouveau le dimanche à 14h55, puisque tous les clubs de Ligue 1 vont jouer cette journée de championnat. Et donc, on va attaquer par la première rencontre de la grille entre une affiche qui fut longtemps la très grosse affiche de Ligue 1 dans les belles années de l'Olympique lyonnais. Ce n'est plus vraiment le cas, mais on peut quand même considérer que l'OL effectue une superbe deuxième moitié de saison et que ce sera quand même une belle affiche en préambule de la finale de Coupe de France qui aura lieu fin mai entre ces deux équipes au stade Pierre-Mauroy. Mais avant cela, on va voir tes pronos, Seb, et apparemment, tu es aussi prudent que moi.
Ouais, parce que bah, j'en parlais tout à l'heure, mais enfin, cette équipe du PSG, elle est difficilement lisible. Je pense que ça a été un des matchs fondateurs là, de ce groupe-là sur cette qualification à Barcelone. Je me méfie de ces matchs d'après où il y a eu beaucoup d'intensité, il y a eu beaucoup d'émotions et de revenir au pain quotidien comme ça dans un championnat où tu as tellement d'avance sur le deuxième. Je pense qu'inconsciemment, il peut y avoir une petite décompression. On se rappelle que Lyon était venu gagner aussi au Parc l'année dernière, à peu près à la même période de l'année. Lyon, justement, si ça avait été le Lyon de début de saison, j'aurais coché le 1 direct. Mais Lyon, c'est quand même la meilleure équipe sur la deuxième partie de saison. Ils font une seule défaite sur les 14 derniers matchs, 22 points engrangés sur 27 possibles. Donc, c'est pas impossible que à l'orgueil, à la volonté, ils puissent faire quelque chose au parc. On a vu les Parisiens se faire accrocher par Reims récemment, par Rennes au parc aussi, par Clermont. Donc voilà, je me dis que sur un match qui peut être un petit peu compliqué pour les Parisiens avec des Lyonnais regroupés derrière, ça peut mal se goupiller et que les Lyonnais peuvent repartir avec un point, voire mieux, pourquoi pas. Mais bon, si la logique est respectée, bien sûr, le PSG est au-dessus, hein, on est d'accord. Mais bon, sur ce genre de match, dans ce contexte-là, je me méfie, donc je laisse le triple.
Bon, on a la même analyse, on est tous les deux prudents avec nos équipes respectives. La surprise, elle est plutôt du côté lyonnais, puisque vous voyez dans la répartition au centre de l'écran, on est en signe rouge. C'est assez logique. On avait été étrié lors du match aller au Groupama Stadium 4-0 dès la première mi-temps. Mais entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et c'est plus du tout le même OL, comme je le disais en introduction. Donc un OL à qui tout réussit en ce moment, à l'image de la victoire contre le FC Brest en toute fin de match avec un pénalty à l'ultime seconde de jeu. Donc la confiance est là, la réussite est là, et pourquoi pas, comme tu l'as rappelé Seb, une victoire comme la saison dernière. Évidemment, si le PSG est en mode Ligue des Champions, ça ne sera pas possible, mais on va quand même compter sur l'avance de points que tu as signalée et un petit relâchement des Parisiens qui auront peut-être déjà la tête dans les étoiles, puisqu'ils peuvent, l'année peut-être où on les attend le moins, aller chercher ce titre en Ligue des Champions. Donc triple comme toi Seb, et on va passer au deuxième match de la grille, et là c'est un autre demi-finaliste, mais en Europa League, qui va se déplacer au Stadium de Toulouse, et donc une rencontre entre le TEF et Marseille, et là tu bases carrément les Toulousains.
Ouais, alors je fais pas mon parisien de base, hein. Là c'est vraiment, on essaye de prendre en compte tous les éléments là. On a tous vu le match de l'OM hier, ils ont fini sur les rotules, ils ont beaucoup donné. Toulouse c'est une équipe qui va mieux, donc je pense que les Marseillais peuvent se faire accrocher là-bas. Marseille, ils ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc le match d'hier, un match où ils ont laissé beaucoup d'énergie. On sait qu'ils n'ont pas une grosse profondeur de banc, donc on devrait retrouver pas mal de titulaires hier sur la feuille de match, dans le 11 de départ en tout cas au stadium. L'OM, c'est aussi la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Ils ont pris que 10 points sur 14 déplacements, donc c'est assez incroyable. Ils ont gagné que 2 matchs à l'extérieur depuis le début de la saison, contre Metz et contre Clermont. Donc bon bah ces deux équipes qui sont dans le bas du classement, c'est vrai que c'était le minimum syndical. Toulouse, il reste sur une belle victoire à Rennes là, 2-1 le week-end dernier. Ils sont dans une bonne dynamique. Ils comptent 5 victoires sur les 8 dernières journées. Et pas des moindres, hein, parce ils sont offerts Monaco, Lille, Nice, Rennes. Et bon, Clermont, c'est la lanterne rouge, mais quand même, hein, il y a de sacrés beaux noms là-dedans. Que des équipes du haut de tableau pratiquement. Donc ils ont 36 points, donc ils sont tout proches du maintien. Je les vois jouer libérés cette rencontre. Moi, je les vois capables de faire quelque chose. Donc voilà, je les coche en sec.
Bah, j'étais pas loin de faire le même prono que toi, Seb, mais je me suis dit, allez, je vais quand même laisser le petit nul parce que Toulouse, ils sont pratiquement maintenus. Un petit point de plus, ça serait le maintien quasi mathématique, mathématiquement en fonction des autres résultats. Et au Stadium, ils vont, c'est vrai, ils vont mieux depuis quelques rencontres. Donc, je les voyais favoris. Donc, j'ai préféré quand même le 1 comme toi, mais je vais laisser ce nul. C'est vrai que Marseille, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde entre le Vélodrome où ils excellent. On l'a vu hier poussé par leur public. Et les matchs en déplacement, pire équipe de Ligue 1, c'est assez difficile de le croire quand on sait qu'il y a du Clermont, du Metz et compagnie en Ligue 1. Mais c'est ainsi. Et puis, il y aura la fatigue, évidemment, malgré l'euphorie de la qualification. La fatigue, toujours un gros match au Stadium et un nul quand même possible qu'il faut, je pense, laisser traîner. Allez, on passe au troisième match de la grille. Donc, ce sont les deux meilleures équipes du championnat. Après, évidemment, ton Paris Saint-Germain qui vont s'affronter au stade Francis Leblé. Et donc, les Bretons qui ont été punis en fin de match au Groupama Stadium, qui accueillent des Monégasques, qui brillent notamment en déplacement. Mais Seb, tu fais quand même confiance aux hommes d'Éric Roy.
Ouais, j'ai décidé de décocher Monaco là parce que paradoxalement les Brestois ont perdu à Lyon la dernière journée, mais je trouve que c'était un très bon Brest. Alors ils ont pris 7 buts en 2 matchs, mais je trouve que le contenu est là quand même. À la maison, Brest c'est solide, hein, ils ont perdu que contre le PSG cette saison, c'est la seule équipe qui les a battus. Et c'était en octobre, hein, donc ça fait un petit moment. À Le Blé, il reste sur 6 victoires et 3 nuls. Lens, Lyon, Marseille se sont inclinés là-bas, donc attention. Et de leur côté, Monaco, ils tournent bien aussi, hein, puisqu'ils restent sur 4 succès à l'extérieur. Mais ils ont plus joué depuis 2 semaines. Alors je me demande si en termes de rythme, ça peut pas influer. Ils viennent de perdre Golovin là, qui est out jusqu'à la fin de la saison là hier apparemment. Donc voilà, je me dis que ça peut très bien finir sur un nul, mais les Brestois là dans l'euphorie, au talent, ils peuvent faire quelque chose. Une équipe de Monaco de toute façon qui est moi j'ai quelques antécédents avec cette équipe, hein, dès que je les prends, ils font l'inverse, c'est un peu comme Rennes. Donc voilà, je pars sur les Brestois avec une croix que je laisse traîner quand même sur le nul.
Bon, c'est vrai que c'est un match qui mériterait amplement le triple et j'ai tenté une quasi-base en extérieur malgré l'absence de Golovin qui va, c'est vrai, peser. Mais je trouve que Monaco du Louis II et le Monaco en déplacement, c'est exactement l'inverse de l'OM. C'est-à-dire que je trouve les Monégasques bien plus à l'aise en déplacement. Et c'est logique par rapport aux qualités de leurs joueurs, des qualités de contre-attaquants et de finisseurs hors pair. Il suffit d'une demi-occasion pour les transformer. Donc je vais quand même pencher du côté de l'offensive et de cette attaque Monégasque qui s'est relâchée et complètement qui a brillé côté Metz où ils en ont mis 5 et les 3 autres déplacements d'avant, ils s'étaient également imposés. Donc une belle équipe offensive de Monaco et j'avantage plutôt l'attaque pour le coup, mais c'est une quasi-base comme on aime les appeler. Allez, on passe maintenant à la quatrième rencontre de la grille avec des Dogs qui ont vécu une grosse désillusion hier soir et une élimination au tir au but contre Aston Villa qui vont recevoir le Racing Club de Strasbourg à qui il manque encore peut-être un petit point pour se maintenir. Et là, Seb, tu fais quand même confiance aux Dogs.
Ouais, parce que bon, tu l'as dit, hein, le scénario du match hier, il peut faire mal à la tête. Mais je pense que Strasbourg, c'est la bonne équipe qu'il leur faut là pour enchaîner et rebondir directement. Les Lillois, ils restent sur 8 victoires sur les 11 dernières journées. Ils sont en tête des équipes à domicile. Ils n'ont perdu qu'un match à Clermont-Auvergne cette saison, toutes compétitions confondues. Moi, je vois un LOSC qui a une bonne tête de deuxième là cette saison. Ça devra forcément passer par des victoires à la maison contre des équipes comme Strasbourg. Et Strasbourg, de son côté, c'est vrai que ça va mieux, mais bon, ils ont quand même encore quelques absents là. Leur meilleur buteur est Mega. Fila, Motiba toujours à l'infirmerie. Ils ont pris le week-end dernier les 3 points contre Reims et sur un match où. Voilà, c'était le public qui a poussé, il y a eu pas mal de faits de jeu. Donc je pense que c'est une équipe qui va se maintenir, mais qui reste quand même un cran, voire deux, en dessous des Lillois. Et je vois les Dogs faire le job là à la maison.
Bah pour ma part, j'aurais eu le même raisonnement que toi s'il n'y avait pas eu ce match d'hier, parce que non seulement il y a l'élimination, mais il y a aussi les 120 minutes qui vont peser et à peine 3 jours de récupération. Et de l'autre côté, les Strasbourgeois, comme je l'ai dit, ils ont aussi besoin encore d'un petit point, à l'instar du TEF pour se maintenir. Ils vont pas se laisser faire ainsi. Ils restent sur 3 bonnes performances en déplacement. Alors c'est vrai que Lille est la meilleure équipe à domicile, mais voilà, c'est un peu atténué par les arguments du match d'hier et puis de l'objectif de maintien des Strasbourgeois. Et puis, il y a pas mal d'amis Strasbourgeois et collègues qui m'écoutent, que je salue au passage. Et on va passer donc au match 4. Et là, c'est une affiche, au match 5, pardon. Et là, c'est une affiche un peu spéciale, puisque c'est un match qu'on peut qualifier vraiment de match de la peur. 2 petits points séparent les 2 équipes et Metz est actuellement relégable. Donc, attention et malheur aux perdants. Et tu vois peut-être les Havrais perdre ce match.
Ouais, bah malheur au vaincu, hein, comme tu le dis, presque un match à 6 points là. Hein. Moi les Havrais, je les sens pas bien du tout. Ils ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont enregistré 4 défaites sur les 5 derniers matchs au Stade Océane. Ils restent sur une grosse désillusion contre Nantes à la maison là, en perdant 1-0 avec un but en toute fin de match. Nantes qui est aussi à la lutte pour le maintien. Donc 3 points perdus face à un concurrent direct. Et donc je pense que c'est un signe qui est pas très pro. Enfin, je serais à leur place, je m'inquiéterais. Alors le Havre, ils sont considérés comme favoris hein, selon les books. Là, j'ai regardé un petit peu les cotes, mais moi, Metz, ils m'ont fait une bonne impression là au dernier match, enfin même les 2 dernières journées, mais surtout contre Lens la semaine dernière, ils ont réussi à retourner une situation qui était mal embarquée quand même, où ils prennent un penalty, puis ils arrivent à finalement s'imposer 2-1 en plus avec des jolis buts. Donc voilà, je les vois pas perdre chez les Havrais, des Havrais qui sont dans le dur et qui vont devoir faire sans Ayew, Touré, Opéry, pardon, qui sont suspendus.
Très bien. Bah pour ma part, je vais opter pour le match nul. Je sens un match assez fermé puisque l'enjeu va tuer le jeu, je pense. Les 2 équipes pourraient signer pour le partage des points. Et puis c'est vrai, comme tu le disais, depuis le retour de Mikotadze, cette équipe de Metz est quand même bien transformée et en confiance. Ils ont réussi à retourner une situation compromise contre le RC Lens. Et justement, c'est grâce à cette victoire qu'ils peuvent encore espérer se maintenir dans cette Ligue 1. Donc un match compliqué quand même à analyser, mais je pense que ça va se neutraliser. Les Normands ne sont pas au mieux, ils n'ont gagné qu'un seul match lors des 3 derniers mois, donc c'est très très faible. Depuis leur victoire 3-1 contre l'Olympique Lyonnais, c'est quasiment le néant. Et donc pour se rassurer, le nul pourrait faire l'affaire des 2 équipes. Il restera 4 journées derrière pour se maintenir. 6e et dernier match de Ligue 1 avec des Rémois englués dans le ventre mou du classement qui reçoivent des Montpelliérains qui ont su bien réagir après leur lourde défaite contre le PSG en enchaînant 3 bons résultats. Et Seb, là, tu vois le nul fixe.
Ouais, on va tenter de nul fixe hein, parce que bah typiquement les matchs de Reims laissent toujours le nul pas très loin. Après, enfin Reims, on le voit, hein, ils rentrent tout doucement dans le rang. Ils avaient fait un gros début de saison et puis c'est un peu plus compliqué ces dernières semaines. Ils ont gagné seulement 2 de leurs 11 derniers matchs. Ils comptent 3 nuls sur les 5 dernières journées. Donc je me dis qu'ils sont retournés à leurs fondamentaux. En face, on a Montpellier, qui est l'équipe de Ligue 1 qui concède le plus de nuls, avec 10 nuls en 29 journées. Alors ils sont à égalité avec Lille, Clermont et Le Havre. Donc c'est une équipe à nul, clairement. Je pense qu'ils se contenteront volontiers d'un point là-bas. Et que la réception de Nantes le week-end prochain, le déplacement à Toulouse sur la journée d'après, ce sera vraiment les matchs sur lesquels ils vont essayer d'aller chercher des points plutôt qu'un déplacement à Reims.
Ben là, de mon côté, je vais prendre encore un peu de risque puisque je vais baser une équipe à l'extérieur et c'est l'équipe de Montpellier que je vais baser parce que je suis vraiment déçu par cette équipe rémoise qui ne pétille vraiment plus du tout. Et chaque saison, on pense qu'ils sont capables d'aller chercher l'Europe. Ils commencent bien, ils ont des phases où ils sont 4e voire 5e du classement et ils saisissent pas leur opportunité. Il y a vraiment un plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à briser pour justement franchir un palier dans cette Ligue 1. Et au contraire, Montpellier, grâce à ses derniers bons résultats, donc après la défaite contre le PSG, ils ont bien réagi en prenant 7 points sur 9 possibles. Donc ils ont pratiquement, en tout cas, ils ont fait un grand pas vers le maintien. Et pour l'assurer, il faudrait justement prendre 3 points dans ce déplacement. C'est là-dessus que je mise. Et donc, je vais tenter cette Camille Baz en déplacement. Évidemment, c'est des matchs qui se triplent comme quasi tous les matchs de Ligue 1, mais je vous donne donc ma première croix en base. Alors, avant de changer de championnat, on vous rappelle que nos pronostics sont donnés en 3 triples, 3 doubles. Ils coûtent 216 euros si vous les jouez sur une seule et même grille. Mais voilà, vous pouvez les jouer en système réduit, en garantie N-1 pour 24 euros au lieu de 216. Alors, qu'est-ce qu'un système réduit? Je vous invite à aller sur le site Pronosoft, rubrique système gratuit, ou à installer le logiciel Pronofoot Expert Plus sur Mac ou sur PC, ou encore l'appli Pronofoot 1 et 2 sur vos smartphones. Allez, on va se diriger maintenant en Espagne avec une énorme affiche, le Classico, entre le premier et son dauphin, donc le Real qui accueille au Bernabéu le FC Barcelone, et le Barça qui pourrait revenir à 5 points des Meringues en cas de victoire. Mais on va voir ton pronostic, Seb, justement, tu vois cette possibilité.
Ouais, je pense que tout peut se passer sur ce match. C'est le match d'après une journée de Coupe d'Europe où il s'est passé pas mal de choses pour les deux équipes, hein. Donc le Real a gagné les deux confrontations cette saison en Liga, en Coupe du Roi. Mais je pense pas que ça va jouer beaucoup sur ce match-là. Le Real a 8 points d'avance sur les Barcelonais. Même si on parle du Classico, je pense qu'ils savent que ce match sera pas crucial pour la course au titre côté madrilène. Donc on peut très bien avoir un Barça revanchard qui va vouloir essayer de laver l'affront de la défaite face au PSG à la maison, en profiter pour essayer de revenir dans la course au titre et de recoller à 5 points, ce qui serait quand même de toute façon assez énorme. Mais là, s'ils perdent le match, ils se retrouvent à 11 points derrière, ils font une croix sur leur saison. Donc je me dis que tout peut se passer. On peut très bien se retrouver face aussi à un Barça qui va accuser le coup mentalement, qui va complètement sombrer avec des joueurs qui, s'ils prennent un but dans le premier quart d'heure ou genre, enfin, qui peuvent complètement couler. Donc je me mouille pas, un trip sur ce match-là, voilà.
De mon côté, je mouille et j'opte pour tes derniers arguments ou derniers scénarios que tu évoques. Donc, le Barça qui prendrait un but assez rapidement et qui peut s'effondrer dans la rencontre. Donc, c'est un match où le Barça peut revenir à 5 points ou, au contraire, en cas de victoire du Real, le Real serait quasiment sacré avec 11 points d'avance sur son dauphin. Donc, c'est vrai que les deux rencontres européennes auront un fort impact sur le déroulement de cette rencontre. Ça reste un classico, quel que soit le classement des deux équipes, elles vont se donner à fond. Ça devrait jouer au football, mais avantage quand même au Real, qui a un meilleur historique récent face au Barça. Allez, deuxième rencontre de la grille concernant la Liga, avec des Colchoneros éliminés à Dortmund en Ligue des Champions et qui devront encore batailler en championnat pour espérer s'assurer une qualification dans cette même compétition la saison prochaine et qui se déplacent à Alavés. Et là, tu fais confiance aux coéquipiers de Griezmann.
Ouais, alors je dois avouer qu'à l'Aves, je les ai pas trop vus jouer cette année, mais bon, c'est une seule victoire sur les 9 dernières journées. Ils sont sur une série de 3 défaites d'affilée, une dernière défaite contre Grenade qui est avant-dernier de Liga. Donc bon, ça respire pas la sérénité côté Alavés. L'Atlético, bon, on a vu ce que ça a donné. Ils sortent d'une élimination contre Dortmund dans un match où il s'est passé plein de choses. Ils ont plus que le championnat à jouer. Alors malgré la déception et leurs difficultés à l'extérieur cette saison, bah je vois les Colchoneros sans surprise assumer leur rang et s'imposer. Là, je vais jouer la logique. Ils ont que 4 points d'avance sur Bilbao qui est cinquième. La cinquième place en Espagne, c'est synonyme d'Europa League. Donc je pense que Simeone il va faire en sorte de finir la saison correctement, d'accrocher la Ligue des Champions. Et bon, ça devra passer par des points engrangés par ce type d'équipe.
Moi, je suis plus prudent que toi, Seb, parce que vraiment, après les désillusions en Coupe d'Europe, ça peut faire mal, je pense. C'est une équipe qui est un peu méconnaissable, qui n'a plus du tout l'assise défensive qu'elle avait les saisons précédentes. Alors, on a apprécié donc justement l'offensive qui était de retour, mais c'est au détriment de la défense qui prend 4 buts à Dortmund et qui a déjà pris quelques volées par le passé. Et c'est une équipe qui est également, à l'instar de l'OM, très en difficulté hors de ses bases, avec seulement 5 victoires en 15 déplacements. Donc c'est à peine une victoire tous les 3 matchs. Donc c'est bien trop peu pour aller viser plus haut en championnat. Je me méfie énormément donc de ce déplacement, avec Alavés qui n'est qu'à 7 points de la zone rouge. Donc le maintien est loin d'être acquis pour les locaux. Et je préfère tripler ce match. Évidemment, je préférerais les Colchoneros dans une préf avec deux ou trois autres favoris, mais je préfère assurer le coup puisque l'athlé m'a souvent déçu en déplacement. Allez, on va changer de championnat et on va retrouver un championnat. Je ne sais pas si tu l'affectionnes ou pas, Seb. On va te voir à l'œuvre. En tout cas, tu es très prudent avec ton premier triple dans ce choc en Bundesliga entre les récents champions d'Allemagne, le Bayer Leverkusen, sacré pour la première fois de son histoire, qui se déplace dans un stade pas trop loin, à quelques dizaines de kilomètres de Leverkusen, pour affronter le Borussia et des marsupiaux qui ont un fort enjeu sur cette rencontre. Et donc, tu triples cette rencontre. Tu vas nous expliquer pourquoi.
Ouais, je la tripe parce que bah c'est un peu, enfin c'est un peu comme le Real Barça. Je trouve que ce genre de match-là, avec une équipe bien au-dessus de l'autre en championnat et deux équipes qui ont joué en Europe cette semaine, c'est difficile à anticiper les scénarios. Donc je peux aussi bien mettre Dortmund que Leverkusen. En tous les cas, je vais pas prendre de risque. En vous regardant, j'ai appris que la Bundesliga fallait s'en méfier. Donc on va utiliser le dernier triple sur ce match et on va voir ce que ça donne.
C'est bien, tu apprends des erreurs des autres en tout cas. Ben pour ma part, j'étais pas loin de baser le Borussia puisque l'enjeu sportif est clairement du côté donc des marsupiaux. Par contre, il y a un enjeu qui est plus statistique puisque pour le titre, c'est plié pour le Bayern. L'enjeu est vraiment statistique. C'est une équipe qui est invaincue cette saison, toute compétition confondue, soit 44 rencontres sans la moindre défaite. Donc c'est prodigieux ce que réalisent les hommes de Xabi Alonso. Je pense pas qu'ils vont comme ça laisser filer dans ce court déplacement qui ressemble un peu à un derby et une rivalité entre ces deux équipes. Mais je donne quand même un avantage à Dortmund que je mettrai également dans une préf, puisque je l'ai dit, l'enjeu de la quatrième place, il est pour Dortmund. Ils sont à égalité avec le Red Bull Leipzig. Ça va jouer entre les deux équipes. Dortmund va bien, va être porté par cette victoire à qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc un réel exploit pour cette équipe de Bundesliga qui ne joue pas les premiers rôles. Donc avantage Dortmund et le nul pour la série d'invincibilité du Bayer Leverkusen. Allez, on passe à l'autre match de Bundesliga. Et là, comme tu l'as dit, il te reste plus de triple, peut-être un double ou deux. Et donc, tu bases Stuttgart qui se déplace contre le Werder.
Voilà, et ben là je vais pas être très original, mais ben, quand on regarde la dynamique des deux équipes, c'est difficile de faire autre chose, surtout que ben, les croix coûtent cher hein, sur ce genre de grille. Donc on a d'un côté une équipe de Stuttgart qui a fait 7 victoires, 2 nuls sur les 9 dernières journées, et on a en face le Werder. Qui a vraiment du mal et qui reste sur 7 journées sans la moindre victoire. Donc on va jouer la logique, je vais pas prendre de risque sur ce match-là. On va espérer que ça passe comme ça.
Bah comme toi, je joue la logique, hein. Les dynamiques sont diamétralement opposées pour ces deux formations. Le Werder vient de se faire étriller à la Bayer Arena contre Leverkusen pour le match du titre. Donc 5 buts à 0. Et Stuttgart, de son côté, enchaîne des bonnes performances. Donc il y a Serhou Guirassy qui marque 25 buts en 23 matchs. Mais il y a également Hunda, à ne pas négliger, 16 buts en 25 rencontres. Donc le duo offensif côté Stuttgart pourra faire mal à cette équipe du Werder. Et comme toi, je les base. Allez, on va faire un petit saut maintenant en Italie avec de la Serie A et l'Atalanta qui vient de créer la sensation des quarts de finale en Europa League en sortant les Reds de Liverpool qui se déplace chez un Monza qui n'a plus grand-chose à jouer en Serie A. Et Seb, tu bases logiquement l'Atalanta.
Ouais, je base l'Atalanta sur ce que j'ai vu d'eux là sur la dernière semaine, la double confrontation contre Liverpool. Et Monza, la dernière fois qu'ils ont battu l'Atalanta, c'était en 99. Donc depuis, ça a été que des victoires de l'Atalanta. Donc bon, on va jouer aussi la logique. Ce serait difficile de partir sur autre chose et de sacrifier une croix pour ce match-là.
Je suis comme toi, Seb, d'autant plus que l'Atalanta récupère tous ses joueurs. Il y a plus d'absents notables dans l'effectif. Il y a encore l'objectif d'aller chercher des places européennes via le championnat et puis la dynamique de cette Coupe d'Europe avec l'élimination de Liverpool et Monza qui n'a plus grand-chose à jouer, même si c'est un promu qui est là depuis 18 mois seulement en Serie A et qui cherchera forcément à finir à la meilleure place possible. L'enjeu sportif est quand même du côté de Bergame que je base comme toi. Allez, maintenant, on va aller de l'autre côté de la Manche. Et là, attention, ce n'est pas un match de Première Ligue. C'est la demi-finale de FA Cup, la deuxième demi-finale de FA Cup qui jouera sur terrain neutre à Wembley dimanche, sachant que la première finale opposera Manchester City à Chelsea samedi soir. Mais là, on parle bien des Red Devils qui vont affronter l'équipe de Championship Coventry, huitième de Championship. Et là, encore la logique pour toi, comme pour moi, Seb.
Ouais, exactement. Bah, cette fin de grille, je joue beaucoup plus la logique. C'est difficile de voir les Mancuniens se rater. Quoique, c'est pas impossible. Hein. On a vu Manchester faire pire au cours des dernières saisons. Mais j'avoue que Coventry, ça respecte pas non plus la sérénité. Il reste sur deux défaites là en Championship. Donc on va compter sur les Mancuniens pour rejoindre la finale et s'offrir le droit de pouvoir rêver un titre cette saison.
Je suis comme toi, Seb, je pense que l'écart, il est trop flagrant entre les effectifs. Et puis Manchester va essayer de sauver sa saison en allant chercher un titre et donc affronter en cas de qualification soit Chelsea, soit Manchester City. Et puis cette équipe de Coventry, pour les plus anciens dont je fais partie maintenant, a quand même passé beaucoup de temps en Première Ligue ou dans l'élite anglaise. Et ils ont été relégués en 2001 après pratiquement 35 ans donc passés dans cette élite anglaise. Donc c'était un point culture foot que je viens de vous donner. Allez, on passe maintenant à deux rencontres de Première Ligue pour clôturer cette grille avec les Villans qui ont fait mal aux Lillois hier, qui vont accueillir une équipe de Bournemouth. Et là, Seb, avantage aux favoris.
Ouais, avantage aux favoris parce que là, ils sont quatrièmes, les Villans, et ils sont à 3 points seulement devant Tottenham. Donc, je pense qu'ils vont, avec un match d'avance, donc je pense que
C'est ça.
là, ils vont essayer de miser un maximum sur la qualif en Ligue des Champions, finir la saison comme ça. Je pense que d'ailleurs, le fait d'avoir été au tir au but hier, je pense que ça aurait été un match de Première Ligue. Je pense que Villa aurait été au-dessus. Enfin, il ne l'aurait peut-être pas joué de la même façon. Donc, moi, je vois les Villans être sérieux, malgré que Bournemouth peut faire un coup. Hein, on est d'accord. Mais voilà, plus de croix, on va jouer la logique là-dessus.
Pour ma part, je suis quand même plus prudent avec cette équipe d'Aston Villa parce que je les ai sentis quand même un peu émoussés hier. Alors, ils ont réussi à aller chercher la qualification, mais j'ai senti un peu émoussé et surtout qu'en face, Bournemouth, qui n'a plus grand-chose à jouer, va justement jouer le jeu à fond. Ils ont une belle attaque. Il y a Solanke qui mène le front de l'attaque dans cette équipe, qui en est quand même déjà à 17 buts cette saison, qui peut encore jouer le titre de meilleur buteur, tout comme Ollie Watkins côté Birmingham. Donc vraiment un match, je pense, qui sera ouvert, pas aussi simple que cela. Aston Villa a eu une très très longue série d'invincibilité à domicile, mais qui s'est arrêtée récemment. Je préfère tripler, je mettrai sûrement une préf sur le 1 parce que l'enjeu, il est de côté d'Aston Villa. Mais je pense que si vous voulez chercher une surprise, mon flair me dit que peut-être qu'elle sera du côté de Villa Park. Allez, dernier match de la grille, et là, ce sont des Reds éliminés de l'Europa League contre toute attente qui se déplacent chez des Cottagers de Fulham. Et là, tu couvres quand même le nul, Seb.
Ouais, je couvre quand même le nul parce que j'ai l'impression que les Reds sont un peu moins bien là sur cette fin de saison. Le championnat est en train de leur échapper. Ils ont plus le droit à l'erreur, c'est vrai, mais voilà, quand on voit que ils se font accrocher par Manchester, qui perdent contre Crystal Palace et qui prennent un 3-0 à la maison contre l'Atalanta là sur en l'espace de quoi de 2-3 semaines. Il dit que ça peut être compliqué aussi ce déplacement à Fulham. Donc on va essayer de spéculer un petit peu. Un nul peut sortir pas mal de joueurs des rangs. Donc voilà, on va conclure là-dessus et on espère une petite surprise pour ce match.
J'attendais un tout petit peu parce que ça ronronne dehors là,
L'ambiance.
j'ai remis le micro, ça ronronne bien donc mauvais signe pour les Reds, hein, d'habitude ça tombe sur Lyon.
Merde, j'aurais dû
Bah, je suis
cocher
comme
Fulham.
toi Seb, c'est vraiment une base mais par défaut de croix parce que les Reds n'inspirent pas vraiment confiance en ce moment, ils restent quand même favoris malgré tout, ils ont quand même le titre à aller jouer et rien n'est impossible, il n'y a que 2 points d'écart. Et en Angleterre, tout le monde peut battre tout le monde. On l'a vu le week-end dernier, mais City peut également fauter à un moment ou à un autre et aux Reds de saisir leur chance. Alors, l'équipe de Fulham est plutôt, en début de saison, de la trouver très très moyenne. Ils avaient eu du mal à tourner la page Mitrovic et je trouve qu'ils l'ont bien fait de tourner cette page. Ils ont quand même réussi à domicile à infliger des 3-0 à Brighton et à Tottenham. Donc, c'est quand même deux grosses performances récentes à Craven Cottage. Donc, il faudra se méfier de ce déplacement. Tu fais bien de mettre le nul, Seb. Mais pour ma part, plus de croix, et donc je base les Reds. Allez, on va passer maintenant à nos pronobooks. Donc, une nouveauté pour toi, Seb, dans cet exercice. Et en parallèle, si vous voulez poser vos questions, on essaiera de les restituer tout à la fin, sachant que Seb est multitâche lors de cette émission.
Ça va le
Et
faire.
donc, que nous as-tu concocté de bon et de beau? Je vois que comme t'es pronostiqueur tennis dans l'équipe, tu t'es permis de mettre du tennis.
Bah, on va mettre un petit match de tennis, surtout qu'il y a un Français qui joue aujourd'hui. Là, ça se passe du côté de l'ATP 500 de Barcelone. On a le Arthur Fils qui va jouer Dusan Lajovic. Donc, bah, Fils, c'est un joueur un peu inconstant cette saison, hein. Il a fait une grosse saison l'année dernière. Il a du mal à repartir sur les mêmes bases. Par contre, il sort d'une victoire référence contre Demi Nord, le joueur qui a sorti Nadal au tour d'avant. Donc, il sort d'un match plutôt satisfaisant, mais attention, Demi Nord, la terre battue, c'est pas sa surface de prédilection. Peut-être à relativiser un petit peu. En face, il y a un Lajovic que je trouve un petit peu sous-coté là sur la cotation des bookmakers. Il est à 2, voire un plus de 2 chez certains bookmakers. Donc, je me dis qu'il a toutes ses chances. C'est un vrai joueur de terre battue. Il a l'expérience. Là, il vient de sortir Humbert, qui est le numéro 1 français. Davidovich Fokina, qui est un très bon joueur de terre battue, qui jouait aussi à la maison. Et Schwartzmann au premier tour. Donc, c'est que des jolis noms. Et je me dis que c'est pas interdit de penser qu'il peut s'imposer dans ce match. Mais. Voilà, le français reste au-dessus sur la prestation qu'il a montrée hier. En tout cas, je vois un match serré, accroché, donc c'est pour ça que je vais me diriger vers le 3-7 pour ce match. Ensuite,
Très bien.
on part sur le Havemez, donc on a un petit peu analysé le match. On a parlé de Mikotadze, et c'est vrai que sa prestation la semaine dernière contre Lens m'a bien plu. Je pense qu'il est très dangereux. Il a inscrit 9 buts cette saison. Il reste sur 2 doublés d'affilée là sur les 2 dernières journées. Donc sur un match de la peur comme ça, où c'est exactement sur ce genre de match-là qu'on doit faire la différence en prenant les 3 points, en sortant par la même occasion un adversaire direct pour le maintien. Je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu, et le but est à 3,30, donc ça me plaît bien. Ensuite, du côté de Brest, le Brest-Monaco, donc on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Je vais tenter le coup Steve Mounier. Mounier qui a marqué pour les Brestois au cours des 2 dernières journées contre Metz et contre Lyon. Un bon jeu de tête, il a ce qu'il faut. Monaco, je les vois un peu moins bien sur ce match. Donc je me dis que Mounier a toutes les chances de marquer, en tout cas les Brestois. Et si ça marque, Mounier peut être dans le coup. Ensuite, en fun, le PSG Lyon. Alors, je me méfie de ce match, hein, toi aussi Nadim. Donc, je pense que un scénario avec une équipe parisienne qui va partir à l'abordage des cages lyonnaises, des Lyonnais qui défendent bien et qui peuvent arriver à la mi-temps à 0-0, et un match qui peut être bourbier pour le PSG. Donc voilà, je vois plutôt un under qu'un over sur ce match. Le moins 1,5 buts est à 4,50. Je pense que c'est pas mal, donc je vais le tenter.
Tu restes vraiment sur la rencontre de l'an dernier avec le 0-1 lyonnais, hein, il
Bah,
me semble, hein, c'est
même je
ça,
trouve
hein?
que Mbappé est. Enfin, je trouve tout le monde le voit que Mbappé est moins bien. Gonzalo Ramos, il s'est pas imposé, il joue des bouts de match par-ci par-là. Dembélé, on sait jamais si il va marquer le but de l'année ou rater l'immanquable. Donc, niveau offensif, c'est très aléatoire. Les seuls sur qui on peut vraiment compter en ce moment, c'est des Vitinha, des joueurs comme ça, des joueurs du milieu. Voilà, ou Barcola à la limite, mais voilà,
L'ancien.
je me dis que c'est un match qui peut être fermé, et voilà, le moins 1,5 but, je pense que c'est plausible.
C'est un peu à contre-courant, mais chaque rencontre a son histoire, puisque Lyon sort d'un 4-3 contre Brest et PSG d'un 4-1 à Barcelone. Mais voilà, chaque match a son histoire. Et ça peut être un match très fermé, justement, un round d'observation avant la finale de Coupe de France, je le rappelle. Je vais essayer de m'y rendre à ce stade, Pierre-Mauroy. Donc
Ah,
voilà.
cool.
Je sais pas toi, Seb, peut-être qu'on pourrait faire le déplacement ensemble.
Ah,
Allez.
j'aurais bien aimé, mais je suis pas là ce jour-là.
Ah, dommage. Alors, de mon côté, donc tu as pris tu as joué contre Dusan Lajovic, mais moi je prends le Dusan Vlahovic du côté de la Juve. Alors, c'est vrai, j'ai vu sur le chat que il y en a un, il s'est pris une douille. Donc, c'était dans le derby contre le Torino qui a été fermé. Et j'aurais évité justement le derby contre le Torino pour prendre un buteur. C'est souvent des matchs très fermés en Italie entre ces deux équipes, souvent des petites victoires ou des 0-0. Mais là, je vois bien Vlahovic, pardon, avec 15 buts en 27 match cette saison, renouer avec le chemin défilé. Il avait mis un doublé en début avril contre la Lazio. Ça fait deux matchs qu'il ne marque pas en championnat. Donc pourquoi pas dans ce déplacement chez une équipe à la portée de la Juve. Et puis je vais sélectionner un autre buteur. Donc c'est Eli Wahi qui est coté à 2,25. Donc Vlahovic était à 2,45. Wahi 2,25. Alors Wahi est un peu décevant cette saison, il n'est même pas tout le temps titularisé, donc il faut vérifier que Franck Hez le mette bien dans les titulaires avant de jouer ce match. Wahi n'a que 7 buts cette saison, mais je pense que contre la Lanterne Rouge, qu'est Clermont, et on resalue Chris au passage, en cas de but encaissé rapidement par les Clermontois, ça pourrait virer en gros score, et les Lensois qui doivent se rassurer et se relancer à Bollaert devant leur public. Donc Wahi buteur 2,25, je pense que ça se tente. Et enfin, je vais prendre le match de FA Cup, donc avec un écart de niveau qui me semble important entre Coventry, une équipe de Championship, et les Red Devils. Et je vais prendre Rasmus Højlund, buteur, parce que je trouve ce joueur, il a réussi à renouer avec le chemin défilé en championnat, mais il est plus efficace dans les rencontres européennes ou de coupe. Donc en Champions League, il avait marqué 5 fois en 6 matchs. Donc là, c'est une rencontre de cup, donc qui sera sûrement mieux dans ses baskets. Déjà un but en 3 matchs de cup cette saison. Donc pourquoi pas un but côté à 2,30. Je pense que Manu devrait mettre 2 ou 3 buts dans cette rencontre. Et ça va donc dans le même sens que mon prono au loto foot. Et enfin, pour le fun, c'est vraiment un gros fun. Chaque fois que je vois le Real contre le Barça, je pense au Manita. Donc il y a plus eu de Manita de Barcelone dans l'histoire de ce classico. Mais là, je vois pourquoi pas un gros score et un gros score en faveur des Merengues. Voilà, le Barça a pris 4 buts contre le PSG. Il pourrait en prendre également 4 ou 5 pour faire passer ce pari avec la cote de 12. Vraiment en fun. Ça peut être un match fermé, une victoire du Barça, comme tu l'as dit, Seb. Mais pour ma part, je vois les Merengues. Allez, on a fini pour nos pronos. Et pendant ce temps-là, je pense que tu as un peu fait le tour des questions,
Ouais, je
Seb.
suis en train
Tu
de
vas m'aider
regarder, de remonter
là-dessus.
un petit peu. J'en ai peut-être raté, n'hésitez pas à remettre dans le chat, hein.
Voilà.
Alors, on a une question d'Olivier qui demande pourquoi on n'a jamais le fameux badge en live sur YouTube pour les pronos.
Oui, effectivement. Alors, c'est prévu qu'il passe une fois, mais Badiou, il n'est pas dans les effectifs Pronosoft. Il fait des petites contributions comme ça pour partager son prono en dehors. Donc, il est moins dispo. Il a un job autre que Pronosoft, alors que Seb, Chris, Ralph et nous tous, on est dans la société full-time, comme on dirait. Donc voilà l'explication, mais un jour on le fera passer sur cette chaîne puisque c'est un des pronostiqueurs mythiques Pronosoft et il avait collaboré et fait le prono avec moi pour les fameux 1 500 000 euros remportés par le Nouti.
Alors, on a une question de Némésis qui te dit: Salut Nadim, si tu devais faire un système, tu mettrais combien en pourcentage pour avoir une bonne chance de faire le perfect?
Alors ça, je pense que le pourcentage, c'est le pourcentage de la garantie. Et donc là, je pense que c'est le pourcentage de la garantie N. Sinon, il faut le préciser. Mais en général, quand je fais de la garantie N, j'aime bien me situer entre 20 et 40%. J'aime pas trop dépasser les 40% parce qu'au-delà de 40%, je me dis, je vais me fier avec une chance sur deux au hasard. Alors qu'en enlevant une croix, ben, mon pronostic, s'il est juste... La garantie N sera là à 100%. Donc, si c'est de ça que tu parles, entre 20 et 40% pour la garantie N.
Ensuite, on a Tennis 92 qui demande: est-ce qu'on peut jouer au loto-foot si notre résidence fiscale n'est pas en France?
Alors, c'est une bonne question. Alors, je pense que tu peux jouer au loto-foot dès lors que tu es sur le territoire français. Et après, en cas de gain, il faut que tu aies un RIB sur une banque domiciliée en France tout court. Donc oui, tu peux être étranger de passage même et jouer au loto-foot. Il faut juste pouvoir se récupérer ses gains avec un compte bancaire. Mais sinon, vaut mieux poser la question directement à la FDJ, puisque c'est eux qui détiennent le règlement et qui connaissent toutes les subtilités de celui-ci.
Alors, on a Freddy qui dit bonjour la team, comment fusionner plusieurs grilles pour éviter de rejouer les grilles déjà jouées dans un jeu précédent?
Alors, je vais peut-être pas pouvoir l'expliquer facilement ici, mais dans le logiciel, tu as une fonction donc déjà pour importer un jeu. Donc dans le mode expert, tu peux importer un jeu ou plusieurs autres jeux, et une fois que l'import est fait, tu peux faire la suppression des doublons dans le logiciel. Par contre, le mieux, c'est de faire un nouveau jeu, d'être en garantie N sur le nouveau jeu, d'importer tous tes jeux que tu veux fusionner, et donc de supprimer les doublons à ce moment-là. Si t'as pas trop vu comment faire, envoie un message au contact Pronosoft ou poste sur le forum Pronofixer Plus sur le site Pronosoft et on te donnera les détails. Enfin, je te donnerai un exemple détaillé.
Alors, on a Biscuit de Reims, un habitué, on salue, qui nous demande, vous préférez faire des paris sportifs sur 3 ou 4 jours différents pour un résultat tardif ou des paris chaque jour avec un maximum d'infos sur les compos?
Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a eu donc week-end dernier une grille sur 2 jours. Alors pour ma part, c'était compliqué avec mes pronos. J'ai même pas franchi l'étape du samedi avec 2 bases sur les 3 matchs de fausse. Moi j'aime bien les deux. Bon, j'ai quand même une préférence. Bah, les 7, les 8 et les 12, je préfère évidemment que ça se déroule sur une seule journée. Pour les pactoles, les grilles à 15 quand c'est le week-end ou même là en semaine, on a eu des grilles sur 3 jours. Ça me dérange pas, sachant que la programmation des grilles dépend de l'offre en présence et que je préfère jouer des top matchs où j'ai des analyses plutôt que d'avoir des matchs bidons d'Amérique latine, comme on peut le voir des fois pour compléter certaines grilles sur certains bookmakers en ligne.
Alors on a une question du citoyen de seconde zone, un habitué aussi qu'on salue. Qu'avez-vous pensé du non-match du Real face à City, même s'il gagne? Pour ma part, j'ai senti le match truqué à plein nez dans le jeu, c'était flagrant.
Oula.
Après le premier but, plus rien.
Oula, ça c'est. Enfin, c'est pas que ça me fait sourire, mais qu'un match soit truqué à ce niveau de la compétition, en plus en Ligue des Champions, mais j'y crois absolument pas. À la limite, dans une deuxième ou troisième division, je veux bien, ou des championnats exotiques, mais à ce stade de la Ligue des Champions, non. Il n'y a pas eu d'anomalie au niveau de l'arbitrage que j'ai vu. J'ai vu un très bon Real en première mi-temps qui a baissé un peu le pied en deuxième et qui s'est regroupé défensivement pour prendre logiquement un but. Après les prolongations, il s'est rien passé, mais comme dans les autres prolongations, hier sur Aston Villa, Lille, j'étais quasiment sûr qu'il se passerait rien. Idem pour l'OM, il s'est rien passé en prolongation après les 5 premières minutes. C'est des matchs à fort enjeu où on a peur de prendre un but et je crois absolument pas au trucage, mais pourquoi pas. Et encore bravo au Real, vraiment, ils ont quelque chose de plus dans cette compète. On aurait dû y penser lors des pronostics qu'on a donnés parce que c'est exceptionnel d'être tout le temps là dans le carré final, année après année, et ils peuvent encore battre leur record.
Et juste rajouter que le scénario du match fait aussi que tu as une équipe qui marque assez rapidement, qui sait qu'elle est qualifiée, sans rien faire. Donc, connaissant Ancelotti, la culture tactique de ce club-là aussi, ça m'a pas étonné qu'il laisse le ballon à City. Et d'ailleurs, enfin, si on est honnête, City doit le gagner tous les jours, ce match, hein, ils doivent passer. Mais voilà, ça s'est pas passé comme prévu, mais je pense pas que c'était voulu de la part du Real de marquer rapidement et de se regrouper derrière. Je pense que le scénario du match fait que le Real a attendu City et que City s'est cassé les dents dessus, mais voilà.
Oui, c'est vrai. En fait, les équipes, elles ont quand même la force de constater qu'elles sont légèrement inférieures à leur adversaire, comme un peu dans des matchs de coupe. Tu viens de le rappeler, c'est le scénario du match qui fait que ça va dans ce sens-là et avec cette physionomie-là. Ils savent qu'ils sont légèrement inférieurs, ils préfèrent aller à l'épreuve
Parce
des
que si
tirs au
City
but,
mène à la mi-temps,
où ils auront.
moi je pense pas que le Real reste derrière à attendre et à finir avec des traces de ballon sur la figure. Hein. Je pense que ça donne un tout autre match.
Mais en tout cas, fabuleux Ancelotti qui a réussi à tourner la page Benzema après avoir tourné la page Ronaldo. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est une équipe qui met pas beaucoup de temps à se régénérer. Et encore bravo. J'aime voir cette équipe jouer en tout cas.
Alors, on a une question d'Aboubacar qui demande, nous, est-ce que tu as déjà gagné au loto-foot?
Je crois qu'il y en avait aussi une plus tôt sur toi et tes perfs au foot, Sam, non?
Ah.
J'avais vu passer, Seb, quels sont tes parents? Je crois que c'est de Sébastien qui a demandé si tu avais
Attends, on va faire une
des faits
recherche
d'armes
dans
au
les
loto-foot.
questions.
Ouais, c'est un peu plus haut de la part de Sébastien. Mais alors, Sébastien, dis-nous si tu as déjà des perfs au loto-foot également. Alors, pour ma
Ah.
part, Aboubacar, oui, j'ai quelques loto-foot à mon actif, pas assez à mon goût, comme tous les joueurs, parce que c'est un jeu très compliqué, notamment le loto-foot 15, où il faut un alignement des planètes. Donc, les loto-foot 15, il y a des périodes de 4, 5, 6 ou 7 ans entre deux gains. Et aujourd'hui, enfin, depuis plusieurs années, je m'en remets surtout au jeu de groupe où nous sommes plusieurs à unir nos mises pour avoir des gros jeux sur les loto-foot 15. Et sinon, je suis un joueur de 7, de 8 et de 12. D'ailleurs, là, on peut voir le dernier loto-foot 12 que j'ai pris, digne de ce nom. Voilà, donc oui, j'ai quelques gains au loto-foot, mais pas assez à mon goût comme tous les joueurs.
Oui, j'ai retrouvé la question de Sébastien, qui était un peu plus haut. Alors,
Entre
Sébastien.
Sébastien, vous pouvez vous parler, hein.
Non, je suis un joueur occasionnel de l'autofoot, Sébastien. Donc, moi, je joue plus au pari à cote. Mais sur des grilles comme celle de ce week-end à 1,5 million, à 2 millions, je vais me faire quelques grilles de temps en temps comme ça. Mais je suis pas un joueur régulier de l'autofoot.
Voilà, on t'a répondu, Seb.
Alors, on a Bruno qui demande, j'ai mis mon seuil de retrait automatique à 200 euros sur Winamax. Si je gagne par exemple 950 euros, qu'est-ce qu'il se passe?
Alors, si tu gagnes, effectivement, c'est une question qu'on n'a jamais eue, donc bravo pour l'avoir posée. En fait, les seuils automatiques, c'est automatiquement au moment où le gain est effectif, il passe sur ton compte. Donc tu passes à 950 euros et tout de suite, il y a un virement qui est déclenché pour tomber à 200 euros. Donc 950, moins 200, ça fait 750 euros. Donc tu as tout de suite 750 euros de virés sur ton compte. Ça peut être très bien pour ne pas être tenté de rejouer tout de suite ses gains, ce qui est un défaut, de nombreux joueurs. Et moi-même en premier, dès que j'ai un gain comme ça, je suis beaucoup plus tenté à rejouer sur quelque chose que si je ne l'avais pas. Donc c'est un bon moyen de contrôler sa bankroll et de ne pas tomber dans l'addiction ou en tout cas de profiter de tes gains et de les voir arriver sur ton solde bancaire et de pas les laisser sur un solde plus virtuel qui est le solde des bookmakers. Donc Siraf était là, il aurait remis une petite couche sur les messages de prévention, mais on va le rappeler vraiment les jeux d'argent restent un danger et ne jouez que ce que vous pouvez perdre. Voilà, et ne faites pas de conneries, hein. On vous dit clairement les choses, n'allez pas vous endetter, vous dire vous allez vous refaire en jouant plus. Essayez de vous faire plaisir et avec uniquement les sommes que vous pouvez perdre.
Une question de Thomas qui demande d'une manière générale, nous, est-ce que tu penses qu'il faut investir, dépenser quel... enfin, tu penses qu'il faut investir, dépenser quelle somme pour espérer gagner le pactole, ou plutôt en dessous de quelle somme ça devient possible de gagner?
Bah, c'est un bon enchaînement avec le message de prévention que je viens de donner. En fait, il n'y a pas de somme idéale. D'ailleurs, il y a un article sur le site qui s'appelle Stratégie, comment gagner au loto-foot. On développe un peu la problématique. Ça va dépendre de plusieurs critères, de ton budget. Effectivement, il faut du budget. Plus on en a, mieux c'est. Mais je ne vais pas dire ici, il faut jouer 1 000 euros, 10 000 euros, ou il y en a qui jouent des fois plus et sans y arriver. Mais le budget fait partie de l'équation. Après, il y a l'agressivité de ton jeu parce que il y a chercher un 14 et puis chercher un 14 où tu vas être potentiellement seul. Ce sont deux choses un peu différentes. Donc, l'agressivité. Et puis, est-ce que tu t'en remets à nos outils et au filtrage et notamment la réduction N-1, N-2 pour couvrir encore plus de choses et tenter des grilles encore plus folles? Ça dépend de ce que tu recherches, sachant que vraiment, faut l'alignement des planètes et qu'on peut jamais contrôler ce jeu. C'est parmi la gamme des loto-foot, c'est le seul où vraiment, quand c'est pas notre jour, on ne peut absolument rien faire, contrairement au 7 et au 8. Donc voilà, mets-toi une mise qui te permet de jouer régulièrement sur les pactoles. C'est le seul conseil que je peux donner, parce que si on tente un gros coup une fois, ben, il y a de fortes chances qu'on ne gagne rien. Et souvent, j'ai regagné sur des grilles où je m'attendais pas à gagner, et j'ai souvent perdu aux grilles où je me suis dit, celle-là, elle a l'air plutôt abordable. C'est là qu'on se prend les plus grosses douilles.
Une question de Harold qui dit salut la team, d'où viennent les pronos de Monsieur Logique, nul extérieur et domicile? Merci.
Ah, ça fait longtemps qu'elle n'était pas revenue, celle-là. Alors, ce sont des pronostiqueurs automatisés qui se basent sur la répartition des pronos, donc de notre concours Lotofoot sur le site Pronosoft. Donc, Monsieur Logique va, comme son nom l'indique, prendre les résultats logiques les plus joués tripler les matchs les plus triplés et doubler les matchs les plus doublés. Monsieur Nul va essayer de tenter des nuls fixes et privilégier tous les pronos comportant des nuls, toujours en se basant sur la répartition. Et il y a Monsieur Extérieur, c'est pareil, également Monsieur Domicile, c'est pareil. Et il y a également Monsieur Surprise, qui est le pronostiqueur automatisé qui a les meilleurs résultats historiquement, puisque lui, il va justement tenter des grilles agressives. Et une fois qu'il est dans le coup, ben, il peut prendre des beaux rapports. Donc, c'est plutôt la stratégie à adopter, Monsieur Surprise. C'est basé sur la répartition. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne des indications.
Alors, question de Damien qui nous demande si on vit de notre activité ou pas.
Alors, y a deux questions derrière. C'est est-ce que nous, Pronosoft, on vit notre activité de site et de société de pronostic? Oui. Tous les salariés et moi-même vivons de cette activité. Après, des pronostics en eux-mêmes, il y a à peine 2 ou 3% de parieurs gagnants dans le monde. Et je trouve déjà que c'est pas mal comme chiffre parce que je ne connais pas beaucoup de joueurs gagnants au pari sportif. Au loto-foot, c'est autre chose puisqu'il suffit d'un gros coup. Il y a des joueurs, je pense qu'il y en a sur le chat, qui ont pris des 500 000 euros et des 1 million. Ça leur permet d'être bénéficiaires. De là à s'arrêter de travailler parce qu'on a pris un ou deux loto-foot, je ne le pense pas. Donc voilà, donc il y a oui à la première question, la première façon d'interpréter, et non à la deuxième.
Une question de Nourdine qui nous dit plutôt, faut nous faire une formation pour les préférences 1 et N et pas N-1. Je suis abonné et j'arrive pas à m'en servir.
Alors, les préférences 1 et N et N-1, oui, je sais pas. Alors, il y a une partie préférence, une partie garantie, je pense. Alors, sur cette chaîne, tu as des vidéos explicatives. Il y a 2-3 tutos du logiciel qui durent 1 heure à chaque fois, qui présentent tous les concepts, qui donnent des exemples détaillés. Il y a l'écran pour nos Foot Expert Plus qui est à l'écran et je détaille un peu les étapes pour un peu tout faire avec le logiciel. Je te conseille de les regarder. Si tu les regardes et que tu n'as pas tout compris, tu reviens vers nous dans une prochaine émission où tu nous contactes soit via le contact du site, soit en postant un message dans le forum Pronosoft. Voilà, mais il faut que tu précises un peu où tu cales.
Alors, une question d'Abou Bakar qui demande si on peut utiliser le logiciel pour jouer au loto-foot espagnol.
Tout à fait. On peut le faire. À l'origine, lors de la création du logiciel, il se voulait pluridisciplinaire et pour viser tous les loto-foot présents en Europe notamment, dont le Toto Calcio et la Quiniela. Alors la grosse différence qu'il y a maintenant depuis 5-6 ans, c'est depuis l'apparition des QR codes, enfin des flash codes de validation, puisqu'ils ne sont supportés que pour le loto-foot en France. Mais tu peux toujours saisir tes grilles de Quiniela et faire les systèmes réduits. Après, il faut recopier ou imprimer sur tes grilles de Quiniela les systèmes décomposés. C'est assez fastidieux aujourd'hui, mais il y a 10, 15, 20 ans, tout le monde recopiait des centaines de grilles à la main, ça ne choquait personne.
Une question d'Ali qui demande, Nadim, est-ce que sur le filtre estimateur, tu mets toujours la même somme ou tu changes en fonction de la grille?
Alors, je ne mets pas toujours la même somme et effectivement, je change en fonction de la grille. Je me suis trouvé un petit truc, c'est assez récent, voilà, après avoir expérimenté. En général, je pars de l'estimation la plus basse. Là, je vais essayer d'ouvrir la grille parce que je ne l'ai pas encore fait pour ce week-end. Donc, en allant dans le live score de la grille, on voit l'estimation la plus basse. Elle est à 2815 euros actuellement et j'essaye de me situer entre 10 fois et 20 fois cette estimation la plus basse, ce qui veut dire qu'il y aura deux ou trois surprises ou demi-surprises pour faire monter donc d'au moins un facteur 10 ou 15 l'estimation la plus basse. Et donc, il y a des grilles, là, ça part à 2800, il y a des grilles qui partent de 500 euros quand il y a beaucoup de favoris, et il y a des grilles qui partent de 7 ou 8000 euros quand la grille est beaucoup plus équilibrée. Donc, le filtre estimateur rajoute un nombre de surprises indirectement et voilà comment je procède avec un x10 à x15 de l'estime la plus basse.
Alors, question de Molzella qui dit « Salut la team, pouvez-vous nous dire quand on joue des triples, on gagne plusieurs fois, une fois à 14, deux fois à 13, etc. »
Oui, tout à fait. Alors, quand tu joues des multiples, doubles, triples, alors si tu es en garantie N, hein, donc déjà si tu mets aucune condition que tu joues une simple grille à la FDJ avec des multiples, tu auras plusieurs grilles au rang inférieur. Et avec le logiciel, ça dépend de ta réduction. Il y a des réductions qui sont parfaites en N-1. Quand je dis parfaite, c'est que quand tu ne perds pas de rang, tu as le 14, mais tu n'auras aucune grille à 13 ou même à 12. Mais si tu as des doubles et des triples sur tes grilles jouées, tu auras forcément des gains au rang inférieur. Et si tu veux faire des tests, tu prends le logiciel, tu mets tes grilles multiples, tu fais tester et tu verras, ça te met à chaque rang combien de grilles tu gagneras.
Une question de Thomas qui demande, nous, t'estimes-tu être un joueur gagnant?
Alors, pour les loto-foot, je l'estime, oui. On a d'ailleurs un bilan dans notre groupement privé avec Badjo et on a un ROI à 180% dans ce groupement, donc 80% de bénéfices sur les mises. Après, sur le reste, paris sportifs, paris à cote, je ne le suis pas. C'est pour l'amusement. Je fais des coups, je perds d'autres coups, mais j'ai toujours du plaisir à aller chercher une grosse cote, même si je dois en perdre d'autres. Donc là, ceux qui ont suivi, il y a une grosse cote récente avec Leverkusen. Je suis assez content de ça. D'ailleurs, il y en a d'autres sur le forum qui l'avaient prise dès le début du championnat. Mais à côté, je vais en perdre beaucoup. Grosso modo, je suis dans la moyenne, mais il y a des coups que j'aime bien sortir.
Une question du citoyen de seconde zone qui demande sur quel site peut-on jouer les autres loto-foot européens?
Alors, je ne sais pas bien si il y a les autres loto-foot européens s'ils sont jouables en ligne. Il y a des bookmakers qui proposent des grilles comme Unibet et le Super Toto ou d'autres. Et pour les loto-foot européens, faut se renseigner. À un moment, on suivait la quiniela de près, mais je ne sais pas s'il y a des validations en ligne possibles. Beaucoup de loto-foot nécessitent une présence sur place, mais j'ai plus trop étudié la chose depuis quelques années.
On a une dernière question de Sébastien qui nous demande un avis sur Nantes-Rennes.
Ah, c'est pas évident celui-là. N'entraîne.
Bah écoute, moi je
Je sais
partirais
pas.
bien sur les Nantais. Hein.
Ouais, tu les vois bien.
C'est les Rennais que je vois pas trop en fait. Hein. En ce moment, je pense qu'ils ont la tête à l'envers et les Nantais sont dans une bonne dynamique. Enfin, en tout cas, Camboiré, il a amené quelque chose, un nouveau souffle. Je pense qu'ils sont en mission commando, que Rennes, bon, Rennes va un peu moins bien, donc moi je mettrais plus une pièce sur Nantes que sur Rennes.
Alors sur le site, ça met logiquement le match nul. J'aurais eu tendance à mettre le match nul également, mais c'est pas un match qui m'inspire en Ligue 1 en tout cas.
Alors on a
Voilà,
une
je pense que
dernière question de
oui.
Biscuit
Ah.
de Reims, c'est là qui vient d'arriver, qui demande Nadim, peux-tu donner ton utilisation du filtre estimateur 50 000 maximum, point d'interrogation.
Alors, c'est plutôt en minimum que je raisonne, comme je dis à chaque fois. Je vais prendre un minimum de l'estimation pour ne pas m'ôter les grilles justement explosives, puisque le but du pactole d'1,5 million, c'est de le prendre seul ou de le prendre avec 3-4 autres gagnants, mais c'est pas qu'il y en ait 50. Par contre, s'il y a 100, 200 gagnants et que j'ai mis minimum 30 000 pour le coup, puisque je fais x12 ou x10 sur l'estimation minimale, si jamais il faisait 10 000, ben, tant pis, c'est le jeu, ça m'a permis de filtrer et de viser des grilles plus hautes. Donc, je vais plutôt mettre un minimum à 50 ou à 30 000 sans jamais limiter par le haut, c'est quelque chose que je fais pas. Il y a des parieurs qui le font, je sais que Badjo, des fois, il limite par le haut. Mais il se garde des grilles à fort potentiel, mais il va mettre quand même des limites où le 13 ne dépassera pas les 30 000 euros, par exemple. Alors que moi, je suis un peu en mode, il peut y avoir personne aux 3 premiers rangs et je vais quand même le prendre à 14, même si ça n'arrivera jamais. J'aime bien me le dire en jouant. Puisqu'il y a une part de rêve quand vous jouez au loto-foot, c'est qu'on est quasiment pour le loto-foot 15 comme le loto ou l'euro-million. Les chances de gagner sont extrêmement faibles. Il y a 4 millions et demi de combinaisons. Vous voyez nos résultats dans les émissions, on va des fois faire des 11, des 12, mais entre chaque rang, l'autofoot, c'est le jour et la nuit, et même entre un 13 et un 14, c'est toujours le jour et la nuit. Donc c'est un jeu très compliqué.
Écoute, on a l'air d'être bon là. Plus de questions.
Bon, bah écoute, merci Seb en tout cas, donc d'avoir été au four et au
De
moulin,
rien.
et à la technique, au prono, au live, au chat, à tout ce qu'on veut. Tu as pu faire les réglages en live au début, donc bravo pour cette première où on n'était que tous les deux présents, donc ça reste une alternative possible si on est en manque d'effectifs. Donc on va vous donner le prochain rendez-vous, ça sera vendredi prochain avec l'équipe un peu plus au complet. On devrait retrouver Chris, notre Clermontois, qui on verra s'il joue encore le maintien ou pas. Et notre prochain rendez-vous, donc vendredi prochain, avec soit 500 000 euros s'il y a eu un preneur sur cette grille, soit 2 millions d'euros s'il n'y a eu pas de gagnant. On le verra bien. Donc, bon match à tous et bon prono. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao,
Ciao tout
ciao.
le monde.